La mille et une nuits, tome 3, chapitre 9, histoire du sixième frère du barbier. Il ne me reste plus à vous raconter que l'histoire de mon sixième frère, appelé Chacabac aux lèvres fendues. Il avait eu d'abord l'industrie de bien faire valoir les 100 drachmes d'argent qu'il avait eues en partage, de même que ses autres frères, de sorte qu'il s'était vu fort à son aise. Mais un revers de fortune le réduisit à la nécessité de demander sa vie. Il s'en acquittait avec adresse, et il s'étudiait surtout à se procurer feutrer des grandes maisons par l'entremise des officiers et des domestiques pour avoir un libre accès auprès des maîtres et s'attirer leur compassion. Un jour qu'il passait devant un hôtel magnifique, dont la porte élevée laissait voir une cour très spacieuse où il y avait une foule de domestiques, il s'approcha de l'un d'entre eux et lui demanda à qui appartenait cet hôtel. « Bonhomme, lui répondit le domestique, d'où venez-vous pour me faire cette demande ? Tout ce que vous voyez ne vous fait-il pas connaître que c'est l'hôtel d'un Barmécide ? » Mon frère, à qui la générosité et la libéralité des Barmécides étaient connues, s'adressa au portier, car il n'y avait plus d'un, et les pria de lui donner l'aumône. « Entrez, lui dirent-ils, personne ne vous en empêche, et adressez-vous vous-même au maître de la maison, il vous renverra content. » Mon frère ne s'attendait pas à tant d'honnêteté. Il en remercia les portiers et entra avec leur permission dans l'hôtel qui était si vaste qu'il mit beaucoup de temps à gagner l'appartement du Barmécide. Il pénétra enfin jusqu'à un grand bâtiment en carré, d'une très belle architecture, et entra par un vestibule qui lui fit découvrir un jardin des plus propres, avec des allées de cailloux de différentes couleurs, qui réjouissaient la vue. Les appartements d'en bas qui régnaient alentour étaient presque tous à jour, et ils se fermaient avec de grands rideaux pour garantir du soleil, et on les ouvrait pour prendre le frais quand la chaleur était passée. Un lieu si agréable aurait causé de l'admiration à mon frère s'il eût eu l'esprit plus content qu'il ne l'avait. Il avança et entra dans une salle richement meublée et ornée de peintures à feuillages d'or et d'azur, où il aperçut un homme vénérable avec une longue barbe blanche, assis sur un sofa à la place d'honneur, ce qui lui fit juger que c'était le maître de la maison. En effet, c'était le seigneur Barmécide lui-même qui lui dit d'une manière obligeante qu'il était le bienvenu et lui demanda ce qu'il souhaitait. « Seigneur, lui répondit mon frère d'un air à lui faire pitié, je suis un pauvre homme qui ai besoin de l'assistance des personnes puissantes et généreuses comme vous. » Il ne pouvait mieux s'adresser qu'à ce seigneur qui était recommandable par mille belles qualités. Le Barmécide parut étonné de la réponse de mon frère, et pourtant ses deux mains à son estomac, comme pour déchirer son habit en signe de douleur. « Est-il possible, s'écria-t-il, que je sois à Bagdad et qu'un homme tel que vous soit dans la nécessité que vous dites ? Voilà ce que je ne puis souffrir. » À ces démonstrations, mon frère, prévenu qu'il allait lui donner une marque singulière de sa libéralité, lui donna mille bénédictions et lui souhaita toutes sortes de biens. « Il ne sera pas dit, reprit le Barmécide, que je vous abandonne, et je ne prétends pas non plus que vous m'abandonniez. « Seigneur, répliqua mon frère, je vous jure que je n'ai rien mangé d'aujourd'hui. « Est-il bien vrai, repartit le Barmécide, que vous soyez à jeun à l'heure qu'il est ? Hélas, le pauvre homme, il meurt de faim. Hola, garçon, ajouta-t-il en élevant la voix, qu'on apporte vite le bassin et l'eau, que nous nous lavions les mains. » Quoiqu'aucun garçon ne parut et que mon frère ne vit ni bassin ni eau, le Barmécide néanmoins ne laissa pas de se frotter les mains comme si quelqu'un eût versé de l'eau dessus. Et en faisant cela, il disait à mon frère, « Approchez-vous donc, lavez-vous avec moi. » Chacabac jugea bien par là que le seigneur Barmécide aimait à rire. Et comme il entendait lui-même la raillerie, et qu'il n'ignorait pas la complaisance que les pauvres doivent avoir pour les riches s'ils en veulent tirer bon parti, il s'approcha et fit comme lui. « Allons, dit alors le Barmécide, qu'on apporte à manger et qu'on ne fasse point attendre. » En achevant ses paroles, quoiqu'on n'eût rien apporté, il commença de faire comme s'il eût pris quelque chose dans un plat, de porter à sa bouche et de mâcher à vide en disant à mon frère, « Mangez, mon hôte, je vous en prie, agissez aussi librement que si vous étiez chez vous. Mangez donc, pour un homme affamé, il me semble que vous faites la petite bouche. »« Pardonnez-moi, seigneur, lui répondit Chacabac en imitant parfaitement ses gestes. Vous voyez que je ne perds pas de temps, et que je fais assez bien mon devoir. »« Que dites-vous de ce pain ? Reprit le Barmécide. Ne le trouvez-vous pas excellent ? » ?»« Ah, seigneur, repartit mon frère qui ne voyait pas plus de pain que de viande, jamais je n'en ai mangé de si blanc ni de si délicat. » « Mangez-en donc tout votre sou, répliqua le seigneur Barmécide. Je vous assure que j'ai acheté 500 pièces d'or à la boulangère qui me fait de si bon pain. » Scheherazade voulait continuer, mais le jour qui paraissait l'obligea de s'arrêter à ses dernières paroles. La nuit suivante, elle poursuivit de cette manière. 181e nuit. Le barmecide, dit le barbier après avoir parlé de l'esclave sa boulangère et vanté son pain, comme mon frère ne mangeait qu'en idée, s'écria « Garçon, apporte-nous un autre plat !»« Mon bravo, te dit-il à mon frère, encore qu'aucun garçon ne parut, goûtez de ce nouveau mets, et me dites si jamais vous avez mangé du mouton cuit avec du blé mondé, qui fut mieux accommodé que celui-là. » « Il est admirable, lui répondit mon frère, aussi je m'en donne comme il faut. » « Que vous me faites plaisir, reprit le seigneur barmécide. Je vous conjure, par la satisfaction que j'ai de vous voir si bien manger, de ne rien laisser de ce mets, puisque vous le trouvez si fort à votre goût. » Peu de temps après, il demanda une noix à la sauce douce, accommodée avec du vinaigre, du miel, des raisins secs, des pois chiches et des figues sèches, ce qui fut apporté comme le plat de viande de mouton. « Loi est bien grasse, dit le barmécide. Mangez-en seulement une cuisse et une aile. Il faut ménager votre appétit, car il nous revient encore beaucoup d'autres choses. » Effectivement, il demanda plusieurs autres plats de différentes sortes, dont mon frère, en mourant de faim, continua de faire semblant de manger. Mais ce qui lui manqua plus que tout le reste fut un agneau nourri de pistaches qu'il ordonna qu'on servît et qui fut servi de même que les plats précédents. « Oh, pour ce mets, dit le seigneur barmecide, c'est un mets dont on ne mange point ailleurs que chez moi. Je veux que vous nous en rassassiez. » En disant cela, il fit comme s'il eut un morceau à la main et rapprochant de la bouche de mon frère. « Tenez, lui dit-il, avalez cela. Vous allez juger si j'ai tort de vous vanter ce plat. » Mon frère allongea la tête, ouvrit la bouche, feignit de prendre le morceau, de le mâcher et de l'avaler avec un extrême plaisir. « Je savais bien, reprit le barmecide, que vous le trouveriez bon. Rien au monde n'est plus exquis, repartit mon frère. Franchement, c'est une chose délicieuse que votre table. » « Qu'on apporte à présent le ragoût, s'écria le barmecide. Je crois que vous n'en serez pas moins content que de l'agneau. Eh bien, qu'en pensez-vous ? » « Il est merveilleux, répondit Chacabac. On y sent tout à la fois l'ambre, le clou de girofle, la muscade, le gingembre, le poivre et les herbes les plus odorantes. Et toutes ces odeurs sont si bien ménagées que l'une n'empêche pas qu'on ne sente l'autre. Quelle volupté !»« Faites honneur à ce ragoût, répliqua le barmecide. Mangez-en donc, je vous en prie. « Holà, garçon, ajouta-t-il en haussant la voix, qu'on nous donne un nouveau ragoût. » « Non pas, s'il vous plaît, interrompit mon frère. En vérité, seigneur, il n'est pas possible que je mange davantage, je n'en puis plus. » « Qu'on desserve donc, dit alors le barmecide, et que l'on apporte les fruits. » Il attendit un moment, comme pour donner le temps aux officiers de desservir. Après quoi, reprenant la parole, « Goûtez de ces amandes, poursuivit-il, elles sont bonnes et fraîchement cueillies. » Ils firent l'un et l'autre de même qu'ils eussent ôté la peau des amandes et qu'ils les eussent mangées. Après cela, le barmecide invita mon frère à prendre d'autres choses. « Voilà, lui dit-il, de toutes sortes de fruits, des gâteaux, des confitures sèches, des compotes, choisissez ce qu'il vous plaira. » Puis, avançant la main comme s'il lui présentait quelque chose, « Tenez, continua-t-il, voici une tablette excellente pour aider à faire la digestion. » Chacabac fit semblant de prendre et de manger. « Seigneur, dit-il, le musc n'y manque pas. »« Ces sortes de tablettes se font chez moi, répondit le barmecide, et en cela comme en tout ce qui se fait dans ma maison, rien n'est épargné. » Et il excita encore mon frère à manger. « Pour un homme, poursuivit-il, qui étiez encore à jeun lorsque vous êtes entré ici, il me paraît que vous n'avez guère mangé. »« Seigneur, lui repartit mon frère, qui avait mal aux mâchoires à force de mâcher à vide, je vous assure que je suis tellement rempli que je ne saurais manger un seul morceau de plus. » « Mon hôte, reprit le barmecide, après avoir si bien mangé, il faut que nous buvions. Vous boirez bien du vin. »« Seigneur, lui dit mon frère, je ne boirai pas de vin, s'il vous plaît, puisque cela m'est défendu. »« Vous êtes trop scrupuleux, répliqua le barmecide. Faites comme moi. »« J'en boirai donc par complaisance, répondit Chacabac. À ce que je vois, vous voulez que rien ne manque à votre festin. Mais comme je ne suis point accoutumé à boire du vin, je crains de commettre quelque faute contre la bienséance, et même contre le respect qui vous est dû. C'est pourquoi je vous prie encore de me dispenser de boire du vin. Je me contenterai de boire de l'eau. » « Non, non, dit le barmecide, vous boirez du vin. » En même temps, il commanda qu'on en apportât. Mais le vin ne fut pas plus réel que la viande et les fruits. Il fit semblant de se verser à boire et de boire le premier. Puis, faisant semblant de verser à boire pour mon frère et de lui présenter le verre, Buvez à ma santé, lui dit-il, sachant un peu si vous trouverez ce vin bon. Mon frère feignit de prendre le verre, de le regarder de près comme pour voir si la couleur du vin était belle, et de se le porter au nez pour juger si l'odeur en était agréable. Puis il fit une profonde inclination de la tête au barmécide pour lui marquer qu'il prenait la liberté de boire à sa santé. Et enfin, il fit semblant de boire avec toutes les démonstrations d'un homme qui boit avec plaisir. « Seigneur, dit-il, je trouve ce vin excellent, mais il n'est pas assez fort, ce me semble. » « Si vous en souhaitez qu'il y ait plus de force, répondit le barmécide, vous n'avez qu'à parler. Il y en a dans ma cave de plusieurs sortes. Voyez si vous serez content de celui-ci. » À ces mots, il fit semblant de se verser d'un autre vin à lui-même et puis à mon frère. Il fit cela tant de fois que Chacabac, feignant que le vin l'était chauffé, contrefit l'homme ivre, leva la main et frappa le barmécide à la tête si rudement qu'il le renversa par terre. Il voulut même le frapper encore. Mais le barmécide, présentant la main pour éviter le coup, lui cria « Êtes-vous fou ?» Alors mon frère, se retenant, lui dit « Seigneur, vous avez eu la bonté de recevoir chez vous votre esclave, de lui donner un grand festin. Vous deviez vous contenter de m'avoir fait manger. Il ne fallait pas me faire boire de vin, car je vous avais bien dit que je pourrais vous manquer de respect. J'en suis très fâché, je vous en demande mille pardons. » À peine eut-il achevé ces paroles, que le barmécide, au lieu de se mettre en colère, se prit à rire de toute sa force. « Il y a longtemps, lui dit-il, que je cherche un homme de votre caractère. » Mais sire, dit Scheherazade au sultan des Indes, je ne prends pas garde qu'il est jour. Schahriar se leva aussitôt, et la nuit suivante, la sultane continua de parler en ces termes. 182e nuit. Sire, le barbier poursuivant l'histoire de son sixième frère. Le barmécide, ajouta-t-il, fit mille caresses à Chacabac. « Non seulement, lui dit-il, je vous pardonne le coup que vous m'avez donné. Je veux même désormais que nous soyons amis et que vous n'ayez pas d'autre maison que la mienne. Vous avez eu la complaisance de vous accommoder à mon humeur et la patience de soutenir la plaisanterie jusqu'au bout. Mais nous allons manger réellement. » En achevant ces paroles, il frappa des mains et commanda à plusieurs domestiques qui parurent d'apporter la table et de servir. Il fut obéi promptement, et mon frère fut régalé des mêmes mets dont il n'avait goûté qu'en idée. Lorsqu'on eut desservi, on apporta du vin, et en même temps un nombre d'esclaves belles et richement habillées entrèrent et chantèrent au son des instruments quelques airs agréables. Enfin, Chacabac eut tout sujet d'être content des bontés et des honnêtetés du barmécide, qui le goûta, en usa avec lui familièrement et lui fit donner un habit de sa garde-robe. Le barmécide trouva dans mon frère tant d'esprit et une si grande intelligence en toutes choses que peu de jours après, il lui confia le soin de toute sa maison et de toutes ses affaires. Mon frère s'acquitta fort bien de son emploi durant 20 années. Au bout de ce temps-là, le généreux barmécide, accablé de vieillesse, mourut. Et n'ayant pas laissé d'héritier, on confisqua tous ses biens au profit du prince. On dépouilla mon frère de tout ce qu'il avait amassé, de sorte que se voyant réduit à son premier état, il se joignit à une caravane de pèlerins de la Mecque, dans le dessein de faire ce pèlerinage à la faveur de leur charité. Par malheur, la caravane fut attaquée et pillée par un nombre de bédouins supérieur à celui des pèlerins. Mon frère se trouva esclave d'un bédouin qui lui donna la bastonnade pendant plusieurs jours pour l'obliger à se racheter. Chacabac lui protesta qu'il le maltraitait inutilement. « Je suis votre esclave, lui disait-il. Vous pouvez disposer de moi à votre volonté. Mais je vous déclare que je suis dans la dernière pauvreté et qu'il n'est pas en mon pouvoir de me racheter. » Enfin, mon frère eut beau lui exposer toute sa misère et tâcher de le fléchir par ses larmes, le bédouin fut impitoyable. Et de dépit de se voir frustré d'une somme considérable sur laquelle il avait compté, il prit son couteau et lui fendit les lèvres pour se venger par cette inhumanité de la perte qu'il croyait avoir faite. Le bédouin avait une femme assez jolie, et souvent, quand il allait faire ses courses, il laissait mon frère seul avec elle. Alors, la femme n'oubliait rien pour consoler mon frère de la rigueur de l'esclavage. Elle lui faisait assez connaître qu'elle l'aimait. Mais il n'osait répondre à sa passion, de peur de s'en repentir, et il évitait de se trouver seul avec elle, autant qu'elle cherchait l'occasion d'être seule avec lui. Elle avait une si grande habitude de badiner et de jouer avec le cruel Chacabac toutes les fois qu'elle le voyait, que cela lui arriva un jour en présence de son mari. Mon frère, sans prendre garde qu'il les observait, s'avisa pour ses péchés de badiner aussi avec elle. Le bédouin s'imagina aussitôt qu'ils vivaient tous deux dans une intelligence criminelle, et ce soupçon le mettant en fureur, il se jeta sur mon frère. Et après l'avoir mutilé d'une manière barbare, il le conduisit sur un chameau au haut d'une montagne déserte où il le laissa. La montagne était sur le chemin de Bagdad, de sorte que les passants qu'il avait rencontrés me donnèrent avis du lieu où il était. Je m'y rendis en diligence. Je trouvai l'infortuné Chakabak dans un état déplorable. Je lui donnai le secours dont il avait besoin et le ramenai dans la ville. Voilà ce que je racontai au calife Mostanzer Billah, ajouta le barbier. Ce prince m'applaudit par de nouveaux éclats de rire. C'est présentement, me dit-il, que je ne puis plus douter qu'on vous ait donné à juste titre le surnom de silencieux. Personne ne peut dire le contraire. Pour certaines causes, néanmoins, je vous commande de sortir au plus tôt de la ville. Allez, et que je n'entende plus parler de vous. Je cédai à la nécessité et voyageai plusieurs années dans des pays éloignés. J'appris enfin que le calife était mort. Je retournai à Bagdad, où je ne trouvai pas un seul de mes frères en vie. Ce fut à mon retour en cette ville que je rendis au jeune boiteux le service important que vous avez entendu. Vous êtes pourtant témoin de son ingratitude et de la manière injurieuse dont il m'a traité. Au lieu de me témoigner de la reconnaissance, il a mieux aimé me fuir et s'éloigner de son pays. Quand je appris qu'il n'était plus à Bagdad, quoique personne ne me sût dire au vrai de quel côté il avait tourné ses pas, je ne laissai pas toutefois de me mettre en chemin pour le chercher. Il y a longtemps que je cours de province en province, et lorsque j'y pensais le moins, je l'ai rencontré aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à le voir si irrité contre moi. Scheherazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, se tut, et la nuit suivante, elle reprit le fil de son discours de cette sorte. 183e nuit. Sire, le tailleur acheva de raconter au sultan de Casgar l'histoire du jeune boiteux et du barbier de Bagdad de la manière que j'eus l'honneur de le dire hier à votre majesté. Quand le barbier, continua-t-il, eut fini son histoire, nous trouvâmes que le jeune homme n'avait pas eu tort de l'accuser d'être un grand parleur. Néanmoins, nous voulûmes qu'il demeurât avec nous et qu'il fût du régal que le maître de la maison nous avait préparé. Nous nous mîmes donc à table et nous nous réjouîmes jusqu'à la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Alors, toute la compagnie se sépara, et je vins travailler à ma boutique en attendant qu'il fût temps de m'en retourner chez moi. Ce fut dans cet intervalle que le petit bossu, à demi ivre, se présenta devant ma boutique, et qu'il chanta et joua de son tambour de basque. Je crus qu'en l'emmenant au logis avec moi, je ne manquerais pas de divertir ma femme. C'est pourquoi je l'emmenai. Ma femme nous donna un plat de poisson, et j'en servis un morceau au bossu, qui le mangea sans prendre garde qu'il y avait une arête. Il tomba devant nous sans sentiment. Après avoir en vain essayé de le secourir, dans l'embarras où nous mit un accident si funeste et dans la crainte qu'il nous causa, nous n'hésitâmes point à porter le corps hors de chez nous et nous le fîmes adroitement recevoir chez le médecin juif. Le médecin juif le descendit dans la chambre du pourvoyeur et le pourvoyeur le porta dans la rue. On a cru que le marchand l'avait tué. Voilà, sire, ajouta le tailleur, ce que j'avais à dire pour satisfaire votre majesté. C'était à la prononcer si nous sommes dignes de sa clémence ou de sa colère, de la vie ou de la mort. Le sultan de Casgar laissa voir sur son visage un air content qui redonna la vie au tailleur et à ses camarades. « Je ne puis disconvenir, dit-il, que je ne sois plus frappé de l'histoire du jeune boiteux, de celle du barbier et des aventures de ses frères que de l'histoire de mon bouffon. Mais avant que de vous renvoyer chez vous tous quatre et qu'on enterre le corps du bossu, je voudrais bien voir ce barbier qui est cause que je vous pardonne. Puisqu'il se trouve dans ma capitale, il est aisé de contenter ma curiosité. » En même temps, il dépêcha un huissier pour l'aller chercher avec le tailleur, qui savait où il pourrait être. L'huissier et le tailleur revinrent bientôt et amenèrent le barbier qu'ils présentèrent au sultan. Le barbier était un vieillard qui pouvait avoir 90 ans. Il avait la barbe et les sourcils blancs comme neige, les oreilles pendantes et le nez fort long. Le sultan ne put s'empêcher de rire en le voyant. « Homme silencieux, lui dit-il, j'ai appris que vous saviez des histoires merveilleuses. Voudriez-vous bien m'en raconter quelques-unes ? » ?»« Sire, lui répondit le barbier, laissons-là, s'il vous plaît, pour le présent, les histoires que je puisse avoir. Je supplie très humblement votre majesté de me permettre de lui demander ce que font ici devant elle ce chrétien, ce juif, ce musulman et ce bossu mort que je vois là étendu par terre. » Le sultan sourit de la liberté du barbier et lui répliqua, « Qu'est-ce que cela vous importe ?» Sire, repartit le barbier, il m'importe de faire la demande que je fais, afin que votre majesté sache que je ne suis pas un grand parleur, comme quelqu'un le prétende, mais un homme justement appelé le silencieux. Scheherazade, frappée par la clarté du jour qui commençait à éclairer l'appartement du sultan des Indes, garda le silence en cet endroit et reprit son discours la nuit suivante en ces termes. 184e nuit. Sire, le sultan de Casgar eut la complaisance de satisfaire la curiosité du barbier. Il commanda qu'on lui racontât l'histoire du petit bossu, puisqu'il paraissait le souhaiter avec ardeur. Lorsque le barbier l'eut entendu, il branla la tête comme s'il eût voulu dire qu'il y avait là-dessous quelque chose de caché qu'il ne comprenait pas. « Véritablement, s'écria-t-il, cette histoire est surprenante. Mais je suis bien aise d'examiner de près ce bossu. » Il s'en approcha, s'assit par terre, prit la tête sur ses genoux. Et après l'avoir attentivement regardé, il fit tout à coup un si grand éclat de rire et avec si peu de retenue qu'il se laissa aller sur le dos à la renverse sans considérer qu'il était devant le sultan de Casgar. Puis, se relevant sans cesser de rire, « On le dit bien, et avec raison, s'écria-t-il encore, qu'on ne meurt pas sans cause. Si jamais histoire a mérité d'être écrite en lettres d'or, c'est celle du bossu. » À ces paroles, tout le monde regarda le barbier comme un bouffon ou comme un vieillard qui avait l'esprit égaré. « Homme silencieux, lui dit le sultan, parlez-moi. Qu'avez-vous donc à rire si fort ?»« Si, répondit le barbier, je jure par l'humeur bienfaisante de votre majesté que ce bossu n'est pas mort. Il est encore en vie. Et je veux passer pour un extravagant si je ne vous le fais pas voir à l'heure même. » En achevant ces mots, il prit une boîte où il y avait plusieurs remèdes qu'il portait sur lui pour s'en servir dans l'occasion. Et il en tira une petite fiole balsamique dont il frotta longtemps le cou du bossu. Ensuite, il prit dans son étui un ferment fort propre qu'il lui mit entre les dents. Et après lui avoir ouvert la bouche, il lui enfonça dans le gosier de petites pincettes, après quoi il tira le morceau de poisson et l'arête qu'il fit voir à tout le monde. Aussitôt, le bossu éternua, étendit les bras et les pieds, ouvrit les yeux et donna plusieurs autres signes de vie. Le sultan de Casgar et tous ceux qui furent témoins d'une si belle opération furent moins surpris de voir revivre le bossu après avoir passé une nuit entière et la plus grande partie du jour sans donner aucun signe de vie que du mérite et de la capacité du barbier qu'on commença, malgré ses défauts, à regarder comme un grand personnage. Le sultan, ravi de joie et d'admiration, ordonna que l'histoire du bossu fût mise par écrit avec celle du barbier, afin que la mémoire, qui méritait si bien d'être conservée, ne s'en éteignît jamais. Il n'en demeura pas là, pour que le tailleur, le médecin juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien ne se ressouvinssent qu'avec plaisir de l'aventure que l'accident du bossu leur avait causée. Il ne les renvoya chez eux qu'après leur avoir donné à chacun une robe fort riche dont il les fit revêtir en sa présence. À l'égard du barbier, il l'honora d'une grosse pension et le retint auprès de sa personne. La sultane Scheherazade finit ainsi cette longue nuit d'aventure auquel la prétendue mort du bossu avait donné occasion. Comme le jour paraissait déjà, elle se tut. Et sa chère sœur Dinarzade, voyant qu'elle ne parlait plus, lui dit « Ma princesse, ma sultane, je suis d'autant plus charmée de l'histoire que vous venez d'achever qu'elle finit par un incident à quoi je ne m'attendais pas. J'avais cru le bossu mort absolument. Cette surprise m'a fait plaisir, dit Shahriar, aussi bien que les aventures des frères du barbier. L'histoire du jeune boitier de Bagdad m'a encore fort divertie, reprit Dinarzade. J'en suis bien aise, ma chère sœur, dit la sultane, et puisque j'ai eu le bonheur de ne pas ennuyer le sultan, notre seigneur et maître, si sa majesté me faisait encore la grâce de me conserver la vie, j'aurai l'honneur de lui raconter demain l'histoire des amours d'Abul Hassan Ali ibn Bekkar et de Shams al-Nihar, favorite du calife Harun al-Rashid, qui n'est pas moins digne de son attention et de la vôtre que l'histoire du bossu. » Le sultan des Indes, qui était assez content des choses dont Scheherazade l'avait entretenu jusqu'alors, se laissa aller au plaisir d'entendre encore l'histoire qu'elle lui promettait. Il se leva pour faire sa prière et tenir ce conseil, sans toutefois rien témoigner de sa bonne volonté à la sultane. 185e nuit. Dinarzade, toujours soigneuse d'éveiller sa sœur, elle appela cette nuit à l'heure ordinaire. « Ma chère sœur, lui dit-elle, le jour paraîtra bientôt. Je vous supplie, en attendant, de nous raconter quelques-unes de ces histoires agréables que vous savez. » « Il n'en faut pas chercher d'autres, dit Shahriar, que celle des amours d'Abul Hassan Ali ibn Bekkar et de Shams al-Nihar, favorite du calife Harun al-Rashid. » Sire, dit Scheherazade, je vais contenter votre curiosité. En même temps, Elle commença de cette manière.